Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Mais nous sommes déjà en ligne, mon petit Bernard. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre mon horloge et celle du studio. Pour moi, on est en ligne seulement, enfin en ligne, sur les ondes dans 20 secondes. Enfin, on y est. On y est, donc on y reste. Alors, je suis ravi de t'avoir, Bernard, ce soir. La semaine dernière, on était avec Boris, mais ce soir, Boris est malade. Alors, s'il nous écoute, nous lui envoyons tous nos voeux de rétablissement.
Eh oui, et puis voilà, c'est les anciens qui reprennent le relais.
Voilà, heureusement qu'on peut compter sur la vieille génération, Bernard, en l'occurrence, toujours fidèle au poste. Alors, ce soir, je suis également ravi de retrouver tous ceux qui veulent bien nous écouter et qui nous écouteront aussi en podcast. Bernard, tu veux parler, je le sens.
On emmène notre invité au téléphone.
Ah oui, eh ben, on va en parler. Mais d'abord, je vais juste présenter les personnes présentes ici, physiquement dans le studio. On a donc le comité... j'en veux avec le comité, je n'y arriverai jamais. Le collectif lesbien lyonnais, déjà le mettre dans le bon ordre. Hein. Collectif lesbien lyonnais. Et puis, on a aussi des représentantes donc des invisibles de Stonewall, que nous connaissons déjà, les invisibles de Stonewall. Nous avons déjà reçu, nous connaissons bien Tanguy Dufournet, qui est le fondateur, je crois, de l'association des Invisibles. Voilà. En tout cas, vous connaissez mon ancienne collaboratrice, oui. Laurence. Oui. Vous l'avez déjà vu, les filles du C2L. Eh bien, Laurence, depuis quelques mois, vous l'avez constaté, ne collabore plus avec moi, ne co-anime plus l'émission avec moi. Et tout simplement parce qu'elle attend un heureux événement. Et puis, je trouvais sympa de prendre ses nouvelles, tout simplement. Et tu me dis qu'elle est là au téléphone, voilà. Les choses sont bien faites finalement. Je veux prendre de ses nouvelles et elle est là au téléphone comme un miracle. On peut la prendre peut-être, la petite Lolo. T'es là, Lolo?
Oui, tu m'entends?
Ma Lolo! Ça va?
Mais oui, j'entends.
Ma collaboratrice. Ouais. Mais dis donc, t'as l'air en forme. Je sais pas, moi je m'attendais à avoir une voix fatiguée, mais tout ça.
Mais bon. Non, mais je me suis dit... Non, mais je me suis dit quand même, je vais passer à la radio et tout, je vais faire un effort, je vais prendre sur moi.
Puis un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, être enceinte, c'est pas une maladie. Voilà.
C'est pas une maladie, mais non, mais ça va, je vais bien, je suis un peu fatiguée, mais ça va.
Ouais, bah oui, normal. Puis en plus, il faisait chaud, mais là, il fait mieux, c'est mieux là pour toi.
Ah oui, là, c'est parfait.
Donc la bébé, on l'appelle la bébé, hein, c'est la bébé, va bientôt... pointe le bout de son nez, montrer le bout de son nez, c'est bientôt, La bébé,
J'espère bientôt, ouais.
Bah oui, c'est peut-être là maintenant, dans les minutes, dans les secondes qui vont suivre, tu vas faire les os, on va faire en direct. Sandrine va être là, va t'accoucher en direct live.
Mon Dieu.
Voilà. Parce qu'il faut parler des deux mamans quand même, non? Lolo et Sandrine.
Oui. Voilà.
Et donc ça se passe bien, tout ça, tout va bien. Elle n'est pas trop stressée, Sandrine quand même?
Aussi un peu.
Plus que toi même, je parie, non?
Ah, mais c'est pas pareil, elle stresse pas pour les mêmes choses.
Ouais.
Voilà. Moi, je vais accoucher, tu comprends?
Oui.
Le stress est tout autre.
Ouais, ouais. T'es pressé, non? De livrer, que le paquet soit livré un petit peu, là, ouais.
Le paquet soit livré.
Mais c'est bientôt, hein, c'est dans deux semaines, je crois, normalement.
Le terme, c'est mardi prochain.
Mardi prochain?
Oh. Mais oui.
Ça peut pas être maintenant, là, maintenant, en direct. On peut pas faire un effort, là.
Non.
Ça marche pas comme ça.
Écoute, non, je suis prêt. Non, mais pour tout te dire, je me sens très bizarre depuis ce matin.
Ah.
Donc, je me suis dit que, je sais pas, peut-être de cette nuit, qui sait.
Et est-ce que tu as ressenti l'empowerment de la femme enceinte? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis enceintes qui me disent « Voilà, quand j'étais enceinte, je me sentais puissante, j'avais l'impression que je pouvais abattre des montagnes, etc. » Est-ce que ça te fait cet effet-là?
Alors, à la fin de la grossesse, honnêtement, non. Mais oui, au milieu de la grossesse, en fait, tu as une période, une sorte de... où tu pètes la forme, c'est entre le 5e et le 7e mois, en règle générale.
Ouais.
Et oui, où c'est vrai que tu te sens un peu invincible. Et puis, le truc génial, c'est que quand t'es enceinte, t'es vraiment considérée comme la reine du monde, quoi.
Ah oui.
Ah ouais, non mais c'est génial. Les gens avec toi, t'as l'impression d'être une reine, quoi. C'est magique.
Ouais.
Je conseille à tout le monde, hein. Vraiment.
Bon, moi, j'essaye, mais j'y arrive pas. Ça fait des années que j'essaye, mais ça marche pas. J'ai bien un peu de bide, mais les tests de grossesse sont toujours négatifs. D'accord. Alors, pour, mais après, le problème, c'est que la couronne va passer à la bébé, quoi. C'est ça, de la mère, de la tête de la mère à la tête du bébé. Après, la reine, ça va être la bébé.
Oui. Mais non, mais c'est normal.
Ouais. Elle va être chouchoutée. Vous avez préparé sa chambre?
Oui.
C'est vrai?
Tout est prêt.
Vous avez mis du rose dans sa chambre?
Oui, mais en plus, le fait est que... Alors bon, c'est très cliché, mais le fait est qu'en plus, moi, j'adore le rose. C'est une couleur que j'adore.
Ouais.
Donc du coup, ouais, on s'est un peu lâché. Non, mais dans la chambre, il n'y a pas trop de rose, mais les vêtements, on va voir que c'est une fille. Pas de doute là-dessus.
Voilà. Voilà, donc ça reste très genré. Donc, du coup. Mais moi, tu sais que j'adore le bleu. Hein, je suis un garçon, j'adore le bleu. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais j'ai toujours aimé le bleu. Voilà. Bon. Et en tout cas, j'espère que ça va se passer bien, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal d'ailleurs.
Oui, j'espère aussi.
Ouais. Et là, je ne sais pas, tu es quand même pressé, donc ça soit fini. Enfin, quel état es-tu ?
À la fin à la fin de la grossesse, oui, tu en as toujours marre, ouais, parce que tu as hâte. En plus, quand tu sais que le bébé est prêt, bon, ben voilà.
Ouais.
Et oui, ça commence à être un peu long, mais bon, de toute façon, c'est ce que. C'est ce que je disais à Bernard il y a quelques secondes tout à l'heure. C'est pas moi qui vais décider. Donc voilà, il faut que je prenne mon mal en patience.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis voilà.
D'un certain côté, c'est bien aussi. Il y a du suspense.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a un effet de surprise.
Voilà. Et dans l'ensemble, donc là, c'était ta première grossesse. Comment tu l'as vécu? Alors bien, finalement, tu appréhendais un petit peu quand même quand on t'a annoncé l'heureux événement? Non, pas spécialement.
Bah non, j'étais contente.
Ouais, bah oui.
Même, bon après, tu peux être contente et avoir des appréhensions, mais. Ouais.
Tu sais, je vais être malade, peut-être, je sais pas, comment va se passer ma grossesse.
Bien. Tu te demandes toujours, surtout les premiers mois, c'est toujours un peu, un peu délicat. Moi, je me plains pas parce que j'ai eu une bonne grossesse hein, quand même.
Ouais.
Enfin, les petits tracas habituels des femmes enceintes, mais vraiment rien de bien. Bien surprenant. C'est des questions d'organisation. Après, on pense plus, mine de rien, quand elle sera un peu plus grande, de maman à l'école, ce que ça va donner. Moi, personnellement, c'est pas le regard des autres qui me gêne, mais m'en fous un peu. Mais voilà, je me suis déjà posé la question, quand elle sera plus grande, comment ça va se passer? Est-ce que le changement de gouvernement bientôt? Je suppose qu'on va changer de gouvernement bientôt. Je pense pas qu'on reste en 2017 sous la houlette de
Monsieur Hollande.
Bon, j'en sais rien, on verra bien. Tu te demandes un peu si ça passe à droite, ce qui va se passer pour les droits des couples, etc., etc. Bon.
On peut quand même penser que les mentalités continueront à s'adapter, à évoluer, on dira.
Oui,
à l'homo, par rapport à l'homoparentalité.
Hein. Oui, on espère. Après, le discours là, des derniers de droite, je crois que il y a Sarkozy, il y a qui d'autre c'est Fillon, finalement, non, qui a dit qu'il n'était pas... J'espère que je ne dis pas de bêtises, qu'il était hors de question de revenir sur la loi sur le mariage pour tous. Bon,
voilà. Lui, il ne veut pas revenir sur... Alors, Fillon, il ne veut pas revenir sur la loi dans la mesure où il veut conserver le mariage pour tous, mais il veut en supprimer toutes les tout le rapport filiation famille homoparentalité, il veut le vider de son contenu, uniquement garder l'union de deux personnes de même sexe, mais pas tout ce qui va à côté, c'est-à-dire filiation, fondation de famille, etc., homoparentalité, quelque forme que cela puisse représenter. Il veut évacuer complètement le sujet là, le cadenasser complètement le mariage, le limiter vraiment à une simple union quoi, entre deux personnes de même sexe.
Mais de toute façon, Fillon, il va pas passer.
Tu sais.
Voilà, donc à la limite.
Quand j'aurai ma boule de cristal, je pourrais peut-être faire des... On demandera à Léa, tu sais, la voyante, rappelle de Léa, la voyante, qui officie sur nos antennes. On lui demandera si elle peut voir dans sa boule de cristal.
On lui demandera,
Bon, très bien. Et puis, est-ce que tu crois qu'un jour, tu reviendras à l'émission? Tiens.
Mais oui.
Ah.
Mais bien sûr.
D'accord.
Mais c'est juste que je peux pas dire encore quand.
Ouais. Bah oui, voilà. Ça je comprends. Puis après, quand il y aura la bébé, il va falloir s'en occuper quand même un petit peu.
même
si elle a ses deux mamans. Même si elle a ses deux mamans pour s'occuper d'elle. Mais bon, il faudra. Tu auras envie d'aller travailler avec elle.
Ce sera juste une question d'organisation. Mais
Il y a juste une question que je voulais te poser. Elle est indiscrète, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu as choisi de l'allaiter ou pas?
T'es sûr? Tu me fais rire. T'es sûr que ça intéresse nos auditeurs?
Je sais pas, mais je m'en fous. Moi, ça m'intéresse.
Écoutez, alors la réponse est oui.
Ah, bien. Voilà. D'accord. Pardon. Ouais. D'accord,
un
oui,
soupe.
Oui.
La réponse est oui. Voilà, ouais. Je ne sais pas si ça intéresse nos invités autour de la table,
si.
Mais...
Oui, si, je pense que oui. Tu sais qu'on a les filles du comité lesbien, du collectif, mais j'y arriverai jamais. Hein. Moi, je les prends pour un comité, tu sais. Le comité d'action anti... je sais pas quoi, anti-capitaliste.
Presque.
Presque. Voilà, bon, bah, très bien. Bah, écoute... Donc, je suis suspendu aux nouvelles,
oui.
Au sujet de la venue, donc de la bébé.
De la bébé,
voilà.
Oui. Vous serez averti.
Ben oui. Embrasse, oui. En tout cas, ça, il n'y a pas de problème, je pense. Et puis, en tout cas, embrasse Sandrine, la
oui,
maman, l'autre
oui.
maman.
Oui.
Et puis, à bientôt, Lolo. Bon courage pour la suite, pour cette
oui,
fin de grossesse.
Merci d'avoir...
Je ne t'ai pas posé la question sur le prénom oui. que tu voulais donner à ta fille, à votre fille.
Ah ben ça c'est
secret. D'accord.
Ah oui.
Mmh. Eh bien,
alors,
voilà.
Là-dessus, on fait vraiment comme tous les couples.
Ouais.
Jamais dire le prénom avant.
Très bien.
Il y en a qui le disent.
Oui, il y en a qui le disent, c'est vrai. Il y en a qui disent même pas le sexe de l'enfant. Avant. J'en connais.
Avant, ouais.
Ah ouais, ouais. Il y en a même des mamans qui ne veulent pas savoir, des parents qui ne veulent pas savoir. C'est rare, mais c'est rare.
Nous, on voulait
savoir. Oui, oui, oui. Bon, très bien. Bah, merci, ma petite Lolo. Ça nous a fait plaisir de t'entendre.
Merci. Merci à toi. Bonne émission.
Voilà. Et puis, on tiendra nos auditeurs et nos auditeuses au courant des événements, de l'événement, du grand événement.
De l'auditeuse, t'es sûr ?
Hein ?
Nos auditeuses, t'es sûr ?
Nos auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs. Allez, je te fais un gros bisou, Lolo.
Gros bisou.
Et bon courage pour la suite.
Oui, merci, oui.
À
bientôt.
Oh bah, regarde, Bernardo nous fait ses bruitages, tu sais. Tu te rappelles des bruitages de Bernardo ? C'est sûr qu'il panque.
Les bruitages de Bernardo. C'est sûr. C'est une petite salve d'applaudissements aurait été la bienvenue, mais bon.
Alors, tu veux dire la grêle qu'il nous envoie ? C'est une sorte de grêle qu'on a. Allez, gros bisous, ma Lolo. Embrasse Sandrine.
Gros bisous, à bientôt.
À bientôt. Merci. Voilà, donc c'était Laurence, vous l'aviez compris. Donc ce soir, donc, je le précisais, je le disais en début d'émission, nous avons le collectif Lesbiens Lyonnais, j'y arriverai. Et qui sont accompagnés donc de Sam et de Camille, des Invisibles de Stonewall. Alors,
moi, je suis du collectif Lesbiens Lyonnais.
Ah, oh là là. Alors, qui est invisible ? Voilà, donc Camille. Sam, c'est le collectif Lesbiens.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Stéphanie, on connaît bien déjà l'antenne, c'est le collectif Lesbiens aussi. Et Vic. Alors, Vic, voilà, je voulais parler de toi ce soir, spécifiquement. Je suis désolé, tu es sur la sellette. Parce que tu me dis, voilà, maintenant, je voudrais... alors, parce que moi, c'est vrai que ça interpelle toujours un petit peu. Alors, tu es... comment on peut dire ? Tu es en transition de genre. Comment on peut dire ? Vas-y, explique-nous, Vic. Tu vas tout nous dire. Il faut faire ton coming out à l'antenne.
Oui, non, tout à l'heure, en arrivant, je t'ai dit que mon pronom était IL.
IL. Ton pronom.
Oui, mon pronom.
D'accord, pas ton prénom. Ton nom prénom, ça pourrait IL, pourquoi pas. Mais là, c'est ton pronom, IL.
Ouais.
Donc, à la fois il et elle.
Oui, parce que...
Ou sans il et sans elle.
C'est ça, c'est les deux, en fait. Bah, parce qu'il n'y a pas de... Effectivement, de neutre ou de... Enfin, tout est genré en français. Et du coup, bah, moi, je me reconnais dans...
Ni dans l'un, ni dans l'autre.
Oui.
Et un peu dans les deux.
C'est ça.
Ouais.
Du coup, la solution que j'ai trouvée, enfin, c'est ça, IL. Et
voilà. Alors, ce qu'on disait hors antenne, c'est que il existe dans certains pays rares un genre neutre, c'est-à-dire que sur des cartes d'identité au niveau administratif des personnes. Alors, ça existe, je crois, dans certains pays scandinaves. Je voudrais pas trop m'avancer. Il faudra que je fasse des recherches un peu plus avant. Certains États du Mexique ou en Amérique latine aussi. Qui prennent plus en compte souvent les questions de genre qu'on pourrait le croire, des personnes peuvent avoir un genre neutre sur leur carte d'identité. Et si c'était le cas, si on pouvait le faire en France, tu choisirais quel genre alors ? Si le genre neutre existait, ça...
En fait, non, je ne le choisirais pas. Moi, je préférerais qu'on enlève le genre des
cartes
d'identité.
Carrément. Ouais, d'accord.
Et d'ailleurs, ça a été...
Ah oui, il y a ça aussi,
au Québec,
effectivement. Oui, oui, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des pays aussi où le genre n'est pas mentionné sur la carte d'identité. En revanche, il y a des pays aussi où on mentionne aussi la religion de la personne. Ça, dans l'autre sens. Voilà. Donc, comme quoi, hein, sur notre planète Terre, des choses bien variées coexistent, plus ou moins facilement, on dira. Voilà. Donc, le collectif est venu ce soir avec les Invisibles parce qu'il y a des actualités, je crois. je crois, des actualités importantes, notamment par rapport aux Invisibles de Stonewall. On a souvent parlé avec le collectif, puisque vous en êtes une des associations qui est à l'instigation de cette exposition, qui s'appelle Stonewall, tout simplement. Hein. Une exposition qui existe depuis déjà longtemps, qui s'est étoffée au cours des années, qui a voyagé un peu partout en France, qu'on a vu aussi à Lyon, et qui, en plus, à l'heure actuelle, se retrouve, je crois, désormais numérisée. Est-ce que je me trompe? Qui veut en parler? Sam?
Oui, je peux en parler. Alors, tu veux que je raconte un peu...
Tu racontes tout ce que tu veux.
Ok. Là, je peux raconter un petit peu l'histoire de l'exposition.
D'accord. Là, je suis dans le micro, c'est bon?
Ouais, non, pas assez. C'est vrai, il faut tourner le micro pour aller dans le triangle.
Voilà. D'accord. Alors, je peux te parler un peu d'exposition, vous parler de l'exposition, parce qu'elle va bientôt, grâce aux Invisibles de Stonewall, dont Camille est la représentante ici ce soir, être exposée à Lyon 2 et à l'Abbaye du Chevreul, mais ça, t'en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc l'exposition s'appelle Stonewall, mythe, origine et réception d'un mouvement populaire et militant aux États-Unis ou comment est née la marche des fiertés. Donc c'est vraiment une expo qui a vu le jour en fait suite à un événement qui est survenu en 2011 lors de la marche des fiertés. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce que les marches se suivent et se ressemblent, mais en 2011 il y avait eu un très gros opinion block. Assez virulent, dont plusieurs de mes amis faisaient partie. Et ce pink bloc, en fait, dénonçait le fait que la marche était devenue vraiment quelque chose de très commercial, hein, c'est pas nouveau, et d'apolitique, en fait. Suite à ça, ça avait été quand même assez virulent, on en avait beaucoup discuté pendant les réunions du collectif lesbien lyonnais. Et du coup, on s'était rendu compte qu'on était quand même... Il y avait beaucoup de gens parmi nous qui ne connaissaient pas cette histoire, qui ne connaissaient pas l'histoire de Stonewall, l'histoire des émeutes de Stonewall, qui avait donc donné lieu à la première marche des fiertés. Et que c'était peut-être... donc le Pink Bloc avait été un rappel de ça, mais qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi de faire connaître cette histoire de façon complémentaire, de la faire connaître aux gens qui marchent chaque année. Et à nos collègues LGBTIQ, etc. Donc on a profité d'un événement qu'on devait co-organiser l'année suivante avec Chrysalide et avec donc l'association Chrysalide et l'association Rimbaud, un événement en juin 2011 à l'autre côté du pont, pour se dire on va faire plusieurs expositions, on va en faire une sur Stonewall et une autre dont Stéphanie vous parlera après sur les droits LGBT en France. Donc l'exposition, dès qu'on a commencé à travailler dessus, à chercher un peu, à lire beaucoup de littérature secondaire, donc beaucoup d'articles qui parlaient de l'événement, on s'est rendu compte qu'en fait Stonewall, c'est un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, et qu'il y avait eu plein d'autres événements, enfin en tout cas tout un mouvement militant aux États-Unis pour les droits des homosexuels et des transsexuels qui avait précédé en fait cet événement-là. C'était en fait plusieurs années de lutte, de mouvements hétérogènes et pour la libération homosexuelle et transsexuelle. Donc on a finalement fait remonter l'exposition aux années 30, donc pour raconter un peu une histoire condensée quand même en trois parties, avec une première partie sur l'origine donc des mouvements militants LGBT aux États-Unis. Donc on repart un peu sur tout ce qui est aussi un peu festif sur la côte ouest, etc. jusqu'aux années 60, et après, on parle beaucoup là des mouvements homophiles, parce que à l'époque, les mouvements s'appelaient homophiles, les premiers mouvements militants étaient composés surtout de personnes qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale, et qui voulaient, qui étaient homosexuels, et qui voulaient défendre leurs droits, mais d'une manière qu'on trouverait aujourd'hui beaucoup, très normative, en fait. Donc très normative, c'était militant, mais c'était quand même des militaristes, etc. Donc c'était pas vraiment les mouvements tels qu'on les connaît aujourd'hui, en tout cas, voilà. Donc ces mouvements-là, homophiles, on raconte un peu leur histoire. Donc il y avait par exemple The Mattachine Society, qui était vraiment une association d'homosexuels hommes, et The Daughter of Bilitis, qui était vraiment une association de lesbiennes. Mais qui étaient aussi composés d'hétérosexuels, parce qu'ils étaient là aussi pour aider leurs amis à se sentir mieux. Bon. Donc, après, il y a une deuxième partie dans l'exposition qui parle vraiment de la radicalisation de ces mouvements dans les années 60, avec une radicalisation qui est encouragé par les Black Panthers et par toute la radicalisation qu'on sent dans les années 68-69, avec beaucoup d'émeutes un peu partout aux États-Unis pour les droits civiques. Voilà. Et la troisième partie parle vraiment du soulèvement de Stonewall. Je pense qu'il y a un problème avec le micro.
Non, je sais pas.
Non, c'est bon.
Non, non.
Voilà, parce que moi, je m'entends plus. C'est...
Ah, parce que Bernardo a baissé le son des micros, c'est bon.
D'accord. Hein. Voilà. Et donc, la dernière partie raconte les 2-3 journées du soulèvement de Stonewall dans le Greenwich Village aux États-Unis, à New York. Voilà.
D'accord.
Alors, donc, voilà. Donc, du coup, je vais laisser la parole aux autres.
Le relais à Stéphanie ou à Camille. Camille, donc, des Invisibles de Stonewall.
Ouais, du coup, vite fait, pour rappeler les Invisibles, on est une association à Lyon 2, donc à l'université. On est une association qui est transféministe. Qui est LGBTI, queer, et en fait on se bat contre toutes les discriminations qui peuvent exister, que ce soit sur le genre, le sexe, les inégalités sociales, de classe, de race, d'ethnicité, d'âge, enfin bref tout ça. Du coup nous on a souhaité, l'association a souhaité faire l'exposition de Stonewall. Du coup, on la divise en deux parties. Une première partie, ça sera du 6 au 15 octobre à la Maison des étudiants sur le campus de Bron et à la salle polyvalente. Et la deuxième partie, ça sera du 17 octobre au 27 octobre à la bibliothèque universitaire de Chevreul, qui est au 10 rue Chevreul, dans le 7e arrondissement. Et il y a aussi une conférence qui va avoir lieu le jeudi 13 octobre de 18h à 20h. Qui sera rue de l'Université. Ça sera sur... l'intitulé de la conférence, ça sera « Des émeutes de Stonewall à aujourd'hui, le mouvement LGBT est-il encore politique ?»
Voilà. D'accord. Bon, de toute façon, toutes ces dates seront...
Sur Facebook.
Elles sont sur Facebook. Oui,
elles sont sur Facebook.
Voilà, puis je les reprendrai aussi sur la page Facebook de l'émission, sur le site de l'émission, pour faire un petit peu de buzz.
Oui.
Sam.
Oui, d'ailleurs, je n'ai pas répondu à ta première question. Tu m'as demandé si l'exposition était en ligne, et elle est en ligne depuis à peu près un mois,
oui.
Grâce à une amie du collectif lyonnais, qui est, voilà, grâce à Sophie, ou Ifso, si on veut.
D'accord.
Et voilà. Donc, on trouve très facilement.
Et le site, c'est expostonewallc2l.wordpress.com.
D'accord. Voilà. Alors, c'est une exposition qui est amenée à évoluer encore ou elle n'est pas... Apparemment, ce n'est pas figé puisque, bon, elle existe depuis déjà plusieurs années et elle peut encore évoluer.
Déjà, Stéphanie va vous parler de la deuxième partie de l'exposition qui ne concerne pas les États-Unis mais qui concerne la France. Et oui, elle est amenée à évoluer dans le sens où on va sans doute la faire plastifier pour les...
Parce qu'on,
donc là, elle a quand même pas mal bougé ces derniers temps. Elle va encore bouger grâce aux Invisibles de Stonewall, donc à Lyon 2, mais...
Elle se nourrit de nouveaux éléments.
Et comme elle est en papier, elle est assez fragile, donc on va la faire plastifier. Et à cette occasion-là, on fera une petite mise à jour aussi au niveau des dates. Mais du coup, je passe la parole à Steph pour parler de la deuxième partie de l'expo.
Oui, effectivement, cette exposition, elle évolue, mais elle ne va pas vraiment évoluer quant à son contenu. Parce que déjà, toute la première partie sur Stonewall, c'est une partie historique. Donc là, à part corriger les coquilles ici et là qu'on a pu voir et des tournants de phrases ou des choses comme ça, il va pas y avoir vraiment de changement sur le fond. Et sur la partie droit, on va l'actualiser aussi un petit peu, mais on va peut-être mettre une note en fin d'expo en disant voilà, elle a été mise à jour à telle date. Et après, si on refait quelque chose sur les droits, ça sera peut-être quelque chose de différent, mais pour éviter tout le temps de réactualiser. Parce qu'effectivement, après, si on l'a fait plastifier, c'est aussi un problème de coût, tout ça.
Ouais, il faut financer, en fait.
Voilà, tout à fait.
Puis il y a le projet, en fait, par rapport à cette expo, de faire une brochure.
Oui.
Justement, parce qu'il n'y a aucun texte en français, donc c'est le Sam qui a fait un super travail de traduction. Et du coup, on avait aussi la volonté de la rendre accessible sous forme de petites brochures ou petits livrets.
Un catalogue, en quelque sorte.
Ouais, oui. Et avec une maison d'édition, mais sans cours.
Oui, d'accord, c'est un projet. Donc en fait, il y a beaucoup encore d'activités au cours de l'expo. Alors,
Du coup, Steph,
une dernière chose par rapport à cette exposition. Donc, il y a une partie sur Stonewall et une partie sur les droits LGBT en France. On s'est dit que ça pouvait être aussi pas mal d'avoir un petit recul sur les droits qui avaient été acquis depuis à peu près 1791. C'est là où commence l'exposition. Pour vraiment se rendre compte aussi qu'en France, on ne marche pas pour rien. On marche pour des droits, on marche pour, voilà, ouais, pour améliorer la vie LGBTIQI, etc. Et pour être un petit peu plus ancré dans, voilà, dans le quotidien, on va dire, de ce qu'on peut voir tous les jours, de ce que nos aînés et ont pu vivre justement et se rendre compte que ces personnes n'ont pas marché pour rien et que, ouais, qu'il faut vraiment redonner un sens beaucoup plus politique
alors,
aux marches.
L'axe de l'exposition, c'est un axe historique et politique alors. C'est lié.
Voilà, c'est lié, ouais, oui, complètement.
Militant, ouais, historique, enfin c'est l'histoire, ouais, du militantisme homosexuel,
voilà,
LGBT, on va dire, dans un sens plus large. Très bien. Alors, moi, ce qu'il y a de bien, c'est que, justement, vous avez inclus... Parce qu'au début, c'est vrai que Stonewall, bon, c'est un grand jalon, je dirais, de l'histoire LGBT. À la base, on disait l'histoire gay, puis on a dit, non, quand même, les lesbiennes aussi ont participé. Puis après, on s'est rendu compte que chez dans
les
Stonewall...
Les transsexuels.
Voilà, finalement, ils étaient en tête de... Voilà. Après, il y a eu les prostituées des deux sexes, d'ailleurs. Enfin, surtout des garçons, mais aussi des trans qui se prostituaient. Bon, et finalement, le côté gay est devenu beaucoup plus réduit, finalement. Parce que le Stonewall, c'était un bar à New York qui accueillait une population extrêmement variée, pas seulement des gays dans le sens stricto sensu du terme, mais effectivement beaucoup de transsexuels, de transgenres, de personnes transgenres, de prostituées, mais aussi des femmes. C'était un lieu mixte, on n'a pas oublié, même si elles étaient en minorité, il y avait aussi des femmes.
Oui, d'ailleurs, ça fait partie un peu des ombres qu'on trouve au tableau commémoratif, hein, c'est comme ça que finit l'exposition, c'est que justement cette participation très mix, etc., a été vraiment gommé au fur et à mesure des marches et que l'aspect gay est plus ressorti. Donc il y a toujours ce travail de mémoire qui est très important à faire. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir l'expo.
Voilà. Alors, le jalon, c'est Stonewall, mais autour de Stonewall, il y a beaucoup de choses. On voit, puisque vous parlez aussi de la France, vous remontez à 1791, la Révolution française. Voilà. Moi, si je peux faire une petite suggestion, mais elle est toute bête, hein. Moi, je trouve que... Moi, il y a une ville que j'aime beaucoup, c'est Berlin. Et Berlin a été pionnière, l'Allemagne a été pionnière dans les droits des gays avant même les États-Unis, on peut le dire. À une époque où les États-Unis étaient encore très frileux là-dessus, Berlin ou Hambourg, Munich possédaient des ouvrages, des catalogues, des journaux, des lieux, etc.
Des associations.
Des associations. Et on connaît, on sait très bien comment ça s'est poursuivi sous le Troisième Reich. Malheureusement, je dirais. Et ça pourrait être peut-être aussi un axe plus européen encore, aller au-delà de la France. Mais bon, comme je disais, que c'est une évolution, une expo évolutive.
En fait, on a aussi travaillé là-dessus. On a organisé, alors c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, et l'année encore d'avant.
Ouais.
On a organisé deux journées sur justement les homosexuels et les transsexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, cet aspect-là de Berlin avant la guerre et après, pendant la guerre et après la guerre, a été évoqué longuement pendant ces journées-là. Il y a eu plusieurs interventions avec des gens comme Isabelle Santis qui ont fait des interventions très intéressantes.
Ouais. C'est vraiment fascinant. Hein. Même au niveau, par exemple, de l'histoire lesbienne, Berlin a une place prépondérante. Il y avait une véritable, comme on dirait maintenant, communauté lesbienne avec leur réseau, avec leurs journaux, avec leurs films, même, je dirais... Des pseudo-cryptages lesbiens, mais reconnus en Allemagne dans les années 20, 30, et que c'était vraiment en ébullition, quoi.
D'ailleurs, si je vais faire un petit peu de pub pour un site qui est très bien pour retrouver plein d'infos par rapport à cette période-là et à tout ça, c'est le site Queer Code. Alors, queer comme queer, Q-U-E-E-R, code. Voilà, Queer Code qui a été lancé, qui parle de tout ça, qui est un site en plus collaboratif, donc qui ne demande qu'à être étoffé par les documents des unes des autres.
D'accord. Ouais. Ça, et c'est très important, le devoir de mémoire.
Voilà,
effectivement.
Il y a eu aussi un travail de recherche au niveau national en France qui a été effectué aussi sur ce sujet, enfin sur cette période-là et sur les homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait participé, je ne sais pas si tu te souviens, Steph, à cette journée-là.
C'était à Paris.
À Paris. Et c'était organisé par un des laboratoires d'excellence. Alors, j'ai complètement oublié son nom. Du coup, on pourrait vous envoyer le lien pour mettre sur votre site.
sur votre site. C'était, oui, c'était vraiment très intéressant aussi. Ça a parlé vraiment de tout le côté Seconde Guerre mondiale, pareil, en Espagne. Il y avait des témoignages de vie aussi très, très intéressants. On est toujours très friands.
Donc, l'actualité sur le feu, je dirais, pour Stonewall, c'est l'expo a été mise en ligne depuis donc un mois. Elle est consultable. Donc, je rappellerai le nom du site et puis on rappellera tous les événements autour de l'exposition et les activités aussi, évidemment, les événements de l'association Les Invisibles de Stonewall. Alors, Vic, tu as pourvu à la... à la programmation musicale, je vais y arriver. Donc, on va écouter un premier morceau de musique. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de tout écouter parce que ça passe vite. Mais qu'as-tu prévu, justement, le premier morceau qu'on va écouter ?
On va écouter un morceau militant, engagé, et qui s'appelle On recrute, et qui est des copains de Viscéralement Déviant.
Viscéralement Déviant, j'aime bien. Moi, je suis viscéralement déviant.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéro-poste à démission.
Ici tu trouveras des perles, des diamants, des paillettes dans tes lunettes, ce sera tout le temps. Nos beautés singulières, c'est comme un bol d'air face au schéma ordinaire. Ni modèle, ni fiche technique, ensemble on affine nos pratiques.
Pas besoin d'aller sur Facebook ou Twitter, des amis tu t'en feras trois par heure. Tout le monde est gentil et de bonne humeur, pas de café, de beurre ou de liqueur, on nage tous dans un parfait bonheur.
Rejoins un crew, relève la tête, reste pas tout seul, viens à la fête. Rien n'a changé dans ton body, tu sais pas pourquoi tu te sens sexy. Puis que t'es là, tu danses pas mieux, mais quand tu bouges, c'est merveilleux. Homophobie désintégrée, arbore ton place, ton TPG.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéro-poste à démission.
Tu seras la rebelle de la famille, tu déclencheras la polémique. Sujet de débat hostile, envisage une fuite rapide. Après avoir pleuré dans le noir, ouvrant les portes de ton placard.
Libre de nos imaginaires, on invente nos façons de faire. Des activités à toute heure, soirée, réu, dîner, atelier. Déménagement, rassemblement, et ça, toujours dans la bonne humeur. Sorcière, win à tout faire, transporteur, diver. Chez nous c'est sûr, tu trouveras ton bonheur.
Je suis pas relou pour un sou, je t'appellerai pas mademoiselle, miss ou ma gazelle. La drague chez moi c'est fictionnel, l'histoire est toute tracée dans ma cervelle. Dans la vraie vie j'ai pas encore osé te parler. Je fais passer le message à une amie queen, qui le dira à un pote trans, qui a une pote queen, qui te dira qu'il paraît que tu me plais.
Ici pas drague relou, quelques regards au niveau des genoux et des bredouillages à l'oreille de mots doux. Non, non, pas drague relou, juste le sens de l'humour et les yeux doux. Tu seras bien accueilli chez nous sur la table, serre-toi, y'a du tofu. Y'a pas qu'au jardin que tu trouveras des petits choux. Des chouchous chez nous, y'en a partout.
Viens chez nous, tu vivras la consanguinité et la non-exclusivité. Et tout ceci sans conflit, sans jalousie et dans l'harmonie, parce qu'on sait se gérer.
Dis adieu à ta cystite, t'auras plus le pipi qui pique. Quel avantage non négligeable qui rend la vie plus agréable. Plus de confusion en ton urètre, ton clitoris. T'inquiète, on sait par où tu pisses.
Viens chez nous, tu verras que le sexe est pour le plaisir et pas pour procréer. Pas besoin de s'occuper de l'avenir, on a déjà le présent à inventer. On est le fléau des nations, on ne contribue pas aux nouvelles générations. Mais on continuera d'essaimer des rêves pailletés de folles dégénérées.
C'est
promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéro-poste à démission.
Les années passent, on reste en place. Toujours décalé, chaque fois qu'ils veulent nous donner un âge, c'est sûr ils vont se planter. Ils peuvent pas capter que pour nous la jeunesse c'est pour l'éternité. Tu vois bien, échapper à la normalité, c'est bon pour la santé. Faut pas hésiter, tu vas kiffer comment bébé.
Pour des années, t'auras des réduits 15-25 ans. Dans le train, t'auras même le droit à un accompagnant. T'auras l'air d'un mineur en fugue, en stop, on te prendra rapidement. Nourri par toute cette foudre, tu vivras plus longtemps.
On a la jeunesse éternelle, la déviance nous donne des ailes. Et même après 30 ans, on s'habille au rayon enfant.
Si t'as des problèmes d'argent, prends plus la tête en comptant les 3 sous manquants sur ton épargne logement. Toute ta vie ne sera qu'économie. Oublie la monotonie d'un travail en CDI. Lâche donc ta maison à crédit, on trouvera un squat, tu verras c'est gratuit.
Tu veux quoi ?
Piscine, jardin et angle saillant. Pas besoin d'ergonomie pour la sécurité des enfants.
Parce que t'en auras pas des enfants.
Si t'en as déjà, t'inquiète, ils sont mûrs avant 2 ans. Les TPG rendent les enfants plus intelligents.
on recrute.
C'est promo sur l'adhésion,
on recrute.
Fini la contraception,
on recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression,
on recrute.
Hétéroposte à démission.
Notre humour nous entretient, viens chez nous, on se marre bien. On fait les meilleures soirées, les hétéros se déguisent pour y aller. Mais on est loin d'être bêtes, on sait différencier un pro-féministe d'une tapette. On a un radar intégré, pas besoin de Grindr ou de GPS. Ça marche même en état d'ivresse. On peut dire sans se tromper qui est trans, green ou PD. On est post-vie privée parce que le privé est politique. Alors tout devient public, plus de culture du secret. Même si tu essayes d'être discrète, on n'a pas public ou closer. Mais les ragots sont toujours à l'heure, avec une large diffusion et des antennes interrégion pour une efficacité éprouvée, des infos vérifiées bien sûr de qualité.
Rien à voir avec du contrôle social, juste un échange d'infos cruciales. Y'a que comme ça qu'on stoppe la gale, c'est une question de santé globale.
On est tous des pros en débat, les hétérostats, nous on est déjà au-delà. Si si, regarde là-bas, on est post-post, on est méta. Même les universitaires piquent nos idées, on a la technique pour niquer les puces
RFID.
On peut t'expliquer n'importe quel mot compliqué sans se la péter ou polémiquer, je crois bien qu'on est parfait.
On fait flipper les gâteaux, on fait pleurer les hétéros. On a la tchatch, on a du style,
on n'est pas là pour être futile.
Chez nous, ni barbelés, ni barrières de sécurité. Mais tu vois, le sens de l'engagement, c'est important. C'est toujours mieux si tu peux rester tranquille, t'installer.
Bienvenue dans la communauté.
C'est promo sur l'adhésion,
on recrute.
Fini la contraception,
on recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression,
on recrute.
Hétéroposte à démission.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Bien, alors, je voulais préciser une petite chose, petit Bernardo. La semaine dernière, tu n'étais pas là, on était avec Boris à la régie, et on a reçu donc le président de la Parole Libérée, hein, accompagné de Laure Brett, avocate, qui a coanimé l'émission avec moi, et puis Laure a tourné, on n'a pas eu le temps de se saluer, donc je les salue maintenant. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on a été un peu coupés rapidement.
C'était pas mal cette émission.
Oui, mais bah, elle est en podcast, on peut l'écouter encore. Hein. C'est l'association à parole libérée sur les victimes de pédophilie dans le diocèse de Lyon. Et du coup, on a été un peu débordé et le couperet est tombé. Tu sais comment ça se passe à Radio Pluriel. On nous a coupé la sifflette. Donc je tenais déjà à les remercier d'être venus, encore une fois. Donc François Deveau, le président de la parole libérée, et Laure Brett, qui est avocate. Bien, donc nous allons revenir à nos invités. Donc, le comité, j'y arriverai un jour. Le collectif, mais il faut vous débaptiser, il faut vous appeler le comité. Bon, après, je dirais le collectif, évidemment, si vous appelez le comité.
Donc,
le
collectif. On tient au collectif.
Oui, non, mais je comprends bien. Le collectif lesbien lyonnais, donc, qui était avec moi, donc représenté par Vic, Stéphanie et donc Sam.
Tout à fait.
À qui j'ai attribué à tort la. L'invisible de Stonewall, mais tu n'es pas une invisible de Stonewall.
Non, parce que j'allais parler de l'exposition Stonewall.
Voilà, d'accord. Et nous avons. Une représentante des invisibles de Stonewall qui est Camille. Voilà. Donc, on a parlé de l'expo, de Stonewall, on a parlé des événements, on les rappellera tous sur. Je les rappellerai tous en tout cas sur les réseaux avec les liens correspondants. Est-ce que vous aviez des choses à me dire encore, à dire à nos auditeurs et à nos auditrices?
Alors. Donc du coup, bah, tu peux dire le C2L en fait.
Oui, c'est vrai que c'est mieux. Mais
ça sera plus court et C2L. Peut-être que ça te bloquera moins.
Ouais, non mais ouais. Ça me bloque pas, mais c'est le mot collectif, pas pourquoi. Bon, c'est bien collectif justement, c'est vrai, c'est mieux que comité. Mais C2L, oui mais ça part plus. Ouais, voilà. collectif lesbien lyonnais, ça parle plus. Bon, il y a un mot, je veux une toute petite parenthèse.
C2L, t'as 2L.
Ouais, c'est vrai, c'est celui aussi, mais bon, voilà. Si quelqu'un prend une émission en cours, ça n'a peut-être pas eu parler, C2L. Alors comité. Collectif lesbien lyonnais, ça parle.
Voilà. Bon, donc du coup, au C2L, on a engagé un nouveau travail de mémoire sur les lesbiennes à Lyon. Donc en fait, on recherche des témoignages de personnes qui auraient vécu à Lyon, alors que ce soit dans les années 40, 50, même avant, si c'est encore possible.
Ouais.
et aussi loin que possible pour peindre en fait un portrait de la vie lesbienne à Lyon dans ces années-là, alors que ce soit une vie militante, enfin vraiment c'est très large, hein. C'est pas forcément des gens qui ont été militants
ou même qui sont sortis dans des lieux et qui ont vécu un amour, voilà, par exemple, voilà, en couple, etc.
Tout à fait, encore dans un esprit de, voilà, de vouloir transmettre des choses, de pas oublier cette mémoire-là, ouais. Et de, voilà, pouvoir après se dire tiens, cet endroit-là, bah, y avait tel bar, il s'est passé ça, ouais. Voilà.
Pour aller après faire des pèlerinages, là, ici, il y avait le... On parlait de voilà. Certains bars.
On traîne une petite plaque. Voilà.
Oui, parce que Lyon a une histoire, enfin, je dirais, LGBT, tout compte fait, assez importante, assez riche, qu'on ignore souvent, d'ailleurs, mais il y a encore beaucoup de témoins qui ont vécu cette histoire-là. Et en ce qui concerne les filles, notamment les femmes, les lesbiennes, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à Lyon, notamment à l'époque, dans les années 70, sur le plan du militantisme. On parlait avec Vic d'une revue qui s'appelait Les Femmes S'aiment, c'est ça ?
Quand les femmes s'aiment.
Quand les femmes s'aiment.
Et qui était en partie réalisée par justement des lesbiennes, des militantes du Centre des Femmes.
Voilà.
Et qui était une grosse orga, et qu'elles étaient dernièrement, on nous a dit, jusqu'à 50 par réunion.
Ouais.
Chaque mois.
Ouais.
Ah ouais. Donc voilà, ces femmes, elles sont encore là pour la plupart, enfin je le souhaite en tout cas, si elles nous entendent, et qu'elles viennent à nous témoigner, enfin à vous surtout, pour témoigner de oui. cette époque-là. Il y avait aussi des bars, il y avait des bars lesbiens à Lyon. Oui. On évoquait le Damier, il y en a eu d'autres. Je me demande si c'est pas un bar qui s'appelait pas la Balance. Ça, il faudrait vérifier. Alors,
je le note.
Voilà, voilà, la Balance. Donc, enfin bref. Hein, donc, en tout cas, il y a eu une vie lesbienne importante.
Voilà, puis aussi de savoir comment se vivait lesbienne à l'époque, ouais. Dans la rue, avec sa famille, au travail. Voilà, essayer de dépeindre un petit peu toute cette atmosphère.
Tout à fait.
Et donc, si vous êtes intéressé pour nous donner vos témoignages, vous pouvez nous contacter à collectif.lesbien, c'est ça, @gmail.com. Ouais.
Très bien.
Par rapport à ce projet d'histoire militante lesbienne, enfin, du coup, là, on travaille avec la bibliothèque Jean Massé. Donc, on va se former, là, notamment sur WordPress, parce qu'on va devoir mettre toutes nos données collectées. Les interviews vont être retranscrites, et du coup après on va les mettre sous une forme de site web, et après ça va faire notre cartographie numérique, et grâce au partenariat avec la bibliothèque Jean Massé qui va nous former à ça, et il y aura justement ça rentre dans le cadre d'un projet de la bibliothèque, j'en avais déjà parlé, de novembre 2016 à février 2017, qui est sur les démocraties et les formes politiques alternatives. Et justement aussi, l'expo Stonewall va à nouveau circuler. Après les Invisibles de Stonewall, ça y sera à la bibliothèque Jean Massé. Mais ça, on en reparlera, on aura le temps.
D'accord. De toute façon, comme je le disais, collectif lesbien lyonnais, j'y suis arrivé, ouais, champagne, les confettis vont tomber du plafond, c'est formidable. on vous retrouvera régulièrement à l'émission, hein, puisqu'il est important que justement la parole lesbienne, la parole féministe, la parole trans aussi, hein, soit retranscrite ici, c'est normal. Parfois on a l'impression de faire des émissions un peu trop gays, hein, mon Bernardo, hein. Voilà, alors on se dit, bon, il faut quand même... La communauté large, il faut élargir le plus possible. Et c'est vrai que les gays, on en a sûrement aussi discuté. Et ça, j'avais entendu Marie-Jo Bonnet, je ne sais pas si vous connaissez Marie-Jo Bonnet, voilà, lors d'une conférence avec, je ne me rappelle plus son nom, Bernard Sergent, je crois, qui sortait à l'époque un livre sur l'homosexualité initiatique dans la Grèce antique. Et elle lui avait brandi, oui, mais dans votre livre Homosexualité initiatique, il n'y a que pour les hommes, il y a une petite page à la fin pour sa faux. Alors elle lui a dit, vous voyez comment vous êtes, vous les gays, mais c'était pas méchant, hein. C'était surtout un peu de la plaisanterie, mais bon, elle disait ce qu'elle pensait aussi, vous reproduisez le couple patriarcal avec nous, l'homme domine et la femme est toujours... Alors moi, pour ça, moi je suis pour que vous veniez à l'émission. Alors, il y a aussi une chose, j'aime bien en parler avec vous quand vous êtes là, mais on n'en parlera plus après, c'est promis, c'est On va d'ailleurs donner les dates des permes, etc. Alors, vos permanences sont, on le répète toujours, à mixité choisie. C'est pas non mixte, mais à mixité choisie.
Tout à fait.
En gros, tout le monde peut venir, sauf les gars cisgenres, les garçons cisgenres, les hommes qui se reconnaissent dans leur genre. Moi, par exemple, je ne pourrais pas venir. Je suis gay, mais je suis garçon cisgenre aussi. Je ne renie pas ma part de féminité et je me demandais si, venant travesti, je pourrais participer aux permes. Je rigole, je ne veux pas m'imposer. Mais bon, moi, je me considère comme en accord avec mon genre, on dira.
T'es féministe ?
Oui, je suis féministe depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, je crois. Ah oui, là, c'est, je suis féministe naturellement, tu vois. Mais sinon, voilà. Donc, ça choque certains. Voilà, on parle du communitarisme. Vous savez, ce mot horrible qu'on nous sort à tous les coups.
Oui. Bah, là-dessus, on peut répondre.
Oui, je sais que vous pouvez répondre.
Ah, oui, on peut répondre. C'est mon tour. Bah, en fait, déjà, on ne travaille pas que en non-mixité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qu'on a créés, qu'on a mis en place. Enfin, en tout cas, par exemple, tout ce qui était exposition, événementiel, etc. C'était en mixité, complète. Les manifestations qu'on a aidé à organiser avec d'autres associations pendant le mariage pour tous, c'était en mixité. La plupart de nos luttes, en fait, de fait, se retrouvent en mixité. Par contre, on tient au fait que nos réunions, nos AG, qui ont lieu 2 fois par mois, et nos permanences soient en non-mixité choisie, pour pouvoir récupérer un espace de parole entre femmes. Parce que vous savez très bien comment ça se passe dans les associations. D'ailleurs, toutes les filles qui sont arrivées au départ au collectif lesbiennais étaient déjà impliquées dans plein d'autres associations LGBT. Et avaient fait le constat qu'elles n'avaient pas forcément la parole... et que la parole revenait souvent aux gays alors qu'elles faisaient leur part de travail largement. Du coup, voilà. Et le fait de pouvoir se retrouver 3 fois par mois en non-mixité, ça libère la parole, ça permet de se mettre au clair et d'avancer. Et en plus, on tient beaucoup aussi au fait de cette prise de parole. C'est-à-dire que pendant nos réunions, on essaie de faire passer la parole à tout le monde, vraiment. On fait des tours de table sur chacun des sujets quand il y a des décisions à prendre. Et pour revenir sur le terme collectif, et pour changer un peu du sujet mixité qui fâche et tout ça, enfin non mixité qui fâche, collectif c'est hyper important pour nous aussi parce qu'on n'a pas de représentants, enfin à part au niveau de la préfecture, au niveau légal, on tient vraiment au fait de dire que toutes nos décisions sont prises en collégialité, sont prises collectivement.
Vous n'avez pas de fonctionnement avec une présidente par
exemple ?
Non,
pas du tout, voilà.
C'est collégial complètement.
Complètement. Ouais. Et même si c'est la première fois que quelqu'un vient au collectif et qu'il doit se prononcer, sa parole et enfin son vote vaut autant que les autres, même s'il a pas encore elle a pas encore sa cotise. Mais je passe la parole du coup.
Moi, je voulais dire par rapport au permes. Donc, en même temps, elles sont le 3e vendredi du mois à 19h30 au centre LGBTI. Et les réunions qui sont également au centre LGBTI les 2e et 4e jeudi du mois, à 19h30 aussi. Du coup, notre prochaine réunion, c'est demain. Et donc, bienvenue aux nouvelles, à celles aussi qui veulent nous rejoindre.
Et elles seront nombreuses, je le sens.
Oui, la première réunion a été très nombreuse.
Voilà. Quand j'aiderai ma perruque blonde,
de
travelotte, vous ne me reconnaîtrez pas.
T'es malin, tu veux jouer au petit malin. Et du coup, demain, on fait une réunion plus spécifiquement sur les réfugiés LGBT, parce qu'on a eu 3 personnes lesbiennes, bi ou pan qui sont venues à la première réunion. Donc on a dit, c'est important, ouais. Et on va aborder...
Vous nous apportez leur témoignage demain.
Oui, et puis aussi créer un cadre avec leurs besoins qu'elles ont commencé à nommer et qu'elles avaient besoin justement de soutien et d'un espace pour se retrouver et pour parler et pour un soutien psychologique quoi aussi.
Oui.
Et donc aussi rappeler que justement parce qu'on nous pose aussi souvent la question que c'est pas que les lesbiennes mais que on accueille aussi les bisexuels, les pansexuels et les personnes justement qui sont trans aussi, soit F2M, soit M2F ou 2NO. Et ça c'est un aspect important et juste le rappeler.
Très bien. Alors, le collectif a aussi des activités connues, comme les ateliers de drag king, par exemple. Je ne sais pas si vous avez continué dans ce sens-là aussi, s'il va y avoir encore d'autres actions de drag kingerie. Je ne sais pas comment on dit.
En effet, on en a organisé une fois,
ouais.
Avec Isabelle Santis, encore, pas nommée, qui est un peu partout. On en a fait aussi un autre. On en a organisé deux, en fait.
Ouais,
voilà.
Deux,
voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de projet d'en refaire un. Ouais. Mais pourquoi pas? Parce que c'est, en tout cas, je pense pas trop m'avancer là-dessus. Mais je pense que ça plairait à beaucoup de personnes du collectif et d'ailleurs d'en refaire un. C'est vraiment des moments très, très riches, très intéressants. Aussi, ces ateliers drag king qui permettent de questionner le genre, de questionner toutes ces choses-là. Et c'est vraiment sympa. Donc, je m'avance pas trop en me disant qu'on est quand même assez ouvert pour vraiment en refaire un.
Il y a aussi la marche de nuit. Alors, la marche de nuit, c'est une marche féministe. Vous êtes partie prenante, je crois.
Oui, sainte.
Ouais.
Alors là, c'est Camille qui va parler.
Il y a Les Invisibles, justement, qui souhaiteraient organiser une marche de nuit. Et du coup...
Mais elle existe déjà, la marche de nuit à Lyon.
Oui, bien sûr, mais on crée une... Enfin, allez-vous.
Ouais, parce qu'en fait, l'année dernière, il y avait la marche de nuit féministe.
Féministe, ouais, moi je parle.
Et Camille, je crois que c'est autre chose, le projet qu'ils ont...
En gros, ça serait une marche de nuit en mixité choisie, également comme ça m'a pu expliquer le terme. Et du coup, c'est en projet, c'est à voir, mais on aimerait bien faire ça...
LGBT, du coup, c'est ça?
Oui.
Ok.
Oui, ouais, LGBT. On est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire... Enfin... On va voir après les projets de Stonewall déjà, comment ça se passe au niveau des personnes, au niveau de la visibilité qu'on va avoir, si ça peut intéresser par exemple le collectif Lesbien Lyonnais ou si ça peut intéresser d'autres collectifs ou d'autres associations de participer avec nous et voir à ce moment-là ce qu'on organise réellement comme marche.
D'accord, parce que la marche de nuit que j'évoquais, alors je ne sais pas si vous êtes impliqué dedans.
Chaque année, on y participe.
Oui, voilà, c'est ça. C'est une marche féministe à la base. Le principe, c'est de dire...
C'est vraiment
les rues appartiennent aux femmes. À un moment donné, une femme, la nuit, dans la rue, c'est encore difficile à notre époque. Et là, c'est des femmes qui marchent la nuit, justement, pour dire la rue est aussi à nous.
Voilà, c'est la réappropriation de l'espace public, vraiment, n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Très important.
Alors, on va faire une petite parenthèse, mon petit Bernardo. Ça va devenir à nouveau très mec, là, très gay, c'est horrible.
Ah non, je m'en vais.
En fait, depuis quelques temps, on a un mystérieux auditeur qui nous envoie des textes. Alors, c'est pas lui qui les écrit, mais c'est lui qui les parle, hein, qui les dit. Là, en l'occurrence, c'est un texte d'un auteur, tout petit texte, hein, il est très court celui-là, qui est tiré du livre qui s'appelle Mes Amours, je crois, de... rappelle-moi, Bernard, Averdi, Emmanuel Averdi. C'est ça, hein, voilà. Donc, ouais, c'est un auteur assez connu, on va dire, moi j'ai oublié son nom pour dire c'est connu. Et du coup, Arletto, lui, toutes les semaines, nous envoie un petit son sous la menace de dévoiler des choses à mon sujet, donc je suis obligé de passer des sons. Et là, donc, il s'agit donc d'un court extrait donc, issu du livre Mes Amours, donc, à Verdi.
Il hurle. Il gémit, il gigote, et tous les deux ils hurlent, ils crient, ils gémissent, et s'éloignent, ils se rejoignent, ils s'éloignent, se rejoignent, et saluent dans leur peau. Sous les peaux. C'est de la chaleur et ça les rend fous au rythme du sexe qui pénètre le sexe et le fouille. Ils gémissent, ils se cambrent, les corps se cambrent, obéissent à eux-mêmes. Ils appellent, implorent, attendent de l'autre d'être entièrement. Comme au seuil de mourir, c'est une suffocation qui illumine et qui éclaire. Les éclaire. Une lueur au moment qu'ils jouissent ensemble. Ils jouissent ensemble et meurent ensemble parce que les corps se vident. Les vides. Renverse. Un éclair. Un éclat. Un éparpillement qui les tue. Et à ce moment-là, exact de l'éparpillement des deux, il lui dit, il lui hurle, je t'aime, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai. À ce moment-là, juste à ce moment-là, c'est toujours vrai.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et bien de retour pour les 5 dernières minutes de l'émission, toujours avec le collectif 4 minutes. Toi, c'est ma pendule, ça marche pas. Elle a 25 secondes d'écart. Alors, bref, 4. Donc 4 minutes, il va falloir faire vite, les filles. On est toujours avec le collectif Lesbien Lyonnais, Camille des Invisibles de Stonewall. Vic, vous voulez... La minute, on l'appelait la minute culturelle de Vic.
Merci. Oui, c'est une minute lesbienne et queer. Et du coup, juste pour parler vite fait, qu'il y a la sortie, il y a la nouvelle bande dessinée qui a été traduite là, de L'essentiel des Gouines à suivre, de Alison Bechdel, que j'ai commencé à lire et que c'est trop bien. Je me marre. Et pour dire, revenir sur les sorties aussi, c'est pas mal ça de parler des sorties lyonnaises, lesbiennes et queer à venir. Mm-hmm. Du coup, dans l'ordre, je vais essayer. Il y a la soirée Madalida. Qui est une soirée drag queen avec Claudine Lebeg et qui sera le 30 septembre, 1er et 2 octobre à Agen d'Arts, 4 rue de Belfort. Donc en gros, elle fait un hommage à Dalida et elle nous demande de s'habiller en queer, super fan de Dalida et de chanter avec elle. Le 14 octobre, il y a la Wet For Me au Club Transbo qui revient avec le collectif Barbiturix.
Mais alors, elles étaient enchantées, je crois, d'être venues à Lyon.
Ouais. Hein, mais que... nous aussi, on était enchantées d'avoir une soirée de cette qualité.
Oui, oui. Parce que enfin, c'est une soirée parisienne qui se décentralise en fait. Hein.
Ouais.
Hein, et ça, la première version avait beaucoup marché.
Ouais, hein. Ouais. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi d'aller à la première Genital Panic qui était organisée par la Bonnie & Clyde en mixité trans, pédéguine, queer et friendly et au Feuillant et qui normalement devrait avoir lieu régulièrement
chaque mois.
Toutes les, ouais, genre, même dit deux fois par semaine,
ouais.
Deux fois par mois, pardon.
Bonnie & Clyde qui, elles, sont des soirées lyonnaises nées à Lyon. Hein.
Oui, un collectif. Deux fois par semaine, ce serait trop bien. Et que dire d'autre? Peut-être, oui, Mickey Blanco, on n'a pas eu le temps d'écouter, mais il vient le 30 septembre.
Eh bien, si on attend, là, on écoutera, oui.
Et un hip-hopper américain, queer, et qui aime bien être drag queen. Et voilà. Et puis le film La danseuse que je suis allée voir, voilà. Qui est pour moi un peu lesbophobe. Après, là-dedans, il y a des lesbiennes qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Mais...
Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'ils ont occulté la face
lesbienne
de...
Lou Fuller, parce que ça se base sur l'histoire de Lou Fuller, qui s'est mariée 3 ans et qui est restée 3 ans avec un homme. Et après, a vécu toute sa vie de lesbienne, et notamment 30 ans avec son assistante. Et ben, dans le film, elle s'accroche beaucoup à la relation, finalement, hétéro. Mm. Et très peu, en tout cas sexuellement parlant, à sa vie lesbienne et... Après, chacun son point de vue. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais... Voilà.
Bien, bah, l'émission va tirer à sa fin, toucher à sa fin. Merci d'être venu. On vous retrouvera très vite, j'espère, le collectif.
Oui.
On entend en fond certainement de nos amis la musique, Bernardo.
Mickey Blanco.
Voilà.
Merci.
Merci d'être venu, les filles. On espère vous retrouver très vite. Et puis à la prochaine, en tout cas.
Et bonne
à la semaine prochaine. Revenge is cycle after cycle after cycle after cycle. Your vengeance is a child's vengeance.
L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.